Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle. Quatrième partie, chapitre 6. C'était en effet Mercanson qui avait raconté dans le village et dans les châteaux environnants mon entretien avec lui sur Dalence, et les soupçons que, malgré moi, je lui avais laissé voir clairement. On sait comment, dans les provinces, les propos médisants se répètent, volent de bouche en bouche et s'exagèrent. Ce fut alors ce qui arriva. Brigitte et moi, nous nous trouvions l'un vis-à-vis de l'autre dans une position nouvelle. Quelques faiblesses qu'elle eût mises dans sa tentative de départ, elle ne l'en avait pas moins faite. C'était sur ma prière qu'elle était restée. Il y avait là une obligation. Je m'étais engagé à ne troubler son repos, ni par ma jalousie, ni par ma légèreté. Chaque parole dure ou railleuse qui m'échappait était une faute. Chaque regard triste qu'elle m'adressait était un reproche senti et mérité. Son bon et simple naturel lui fit trouver d'abord à sa solitude un charme de plus. Elle pouvait me voir à toute heure, et sans être obligée à aucune précaution. Peut-être se livra-t-elle à cette facilité pour me prouver qu'elle préférait son amour à sa réputation. Il semblait qu'elle se repentît de s'être montrée sensible au discours des médisants. Quoi qu'il en soit, au lieu de veiller sur nous et de nous défendre de la curiosité, nous prîmes au contraire un genre de vie plus libre et plus insouciant que jamais. J'allais chez elle à l'heure du déjeuner, n'ayant rien à faire dans la journée. Je ne sortais qu'avec elle. Elle me retenait à dîner. La soirée s'ensuivait par conséquent. Bientôt, lorsque l'heure de rentrer arrivait, nous imaginâmes mille prétextes. Nous prîmes mille précautions illusoires qui, au fond, n'en étaient point. Enfin, je vivais, pour ainsi dire, chez elle. Et nous faisions semblant de croire que personne ne s'en apercevait. Je tins parole quelque temps, et pas un nuage ne troubla notre tête-à-tête. Ce furent d'heureux jours. Ce n'est pas de cela qu'il faut parler. On disait partout dans le pays que Brigitte vivait publiquement avec un libertin arrivé de Paris, que son amant la maltraitait, que le temps se passait à se quitter et à se reprendre, mais que tout cela finirait mal. Autant on avait donné de louanges à Brigitte pour sa conduite passée, autant on la blâmait maintenant. Il n'était rien dans cette conduite même, autrefois digne de tous les éloges, qu'on allait rechercher pour y trouver une mauvaise interprétation. Ses courses solitaires dans les montagnes, dont la charité était le but, et qui n'avaient jamais fait naître un soupçon, devinrent tout à coup les sujets des quolibets et des railleries. On parlait d'elle comme d'une femme qui avait perdu tout respect humain, et qui devait s'attirer justement d'inévitables et affreux malheurs. J'avais dit à Brigitte que mon avis était de laisser jaser. Je ne voulais pas paraître me soucier de ses propos. Mais la vérité est qu'il me devenait insupportable. Je sortais quelquefois exprès, et j'allais faire des visites dans les environs, pour tâcher d'entendre un mot positif que j'eusse pu regarder comme une insulte, afin d'en demander raison. J'écoutais avec attention tout ce qui se disait à voix basse dans un salon où je me trouvais. Mais je ne pouvais rien saisir. Pour me déchirer à son aise, on attendait que je fusse parti. Je rentrais à l'horologie, et je disais à Brigitte que tous ces contes n'étaient que des misères, et qu'il fallait être fou pour s'en occuper. On parlerait de nous tant qu'on voudrait, et que je n'en voulais rien savoir. N'étais-je point coupable, au-delà de toute expression? Si Brigitte était imprudente, n'était-ce pas à moi de réfléchir et de l'avertir du danger? Tout au contraire, je pris, pour ainsi dire, le parti du monde contre elle. J'avais commencé par me montrer insouciant. J'en vins bientôt à me montrer méchant. « Vraiment, disais-je à Brigitte, on dit du mal de vos excursions nocturnes. Êtes-vous bien sûr qu'on a tort? Ne s'est-il rien passé dans les allées, dans les grottes de cette forêt romantique? N'avez-vous jamais accepté, pour entrer à la brune, le bras d'un inconnu, comme vous avez accepté le mien? Était-ce bien la charité seule qui vous servait de divinité dans ce beau temple de verdure que vous traversiez si courageusement? » Le premier regard de Brigitte, lorsque je commençais à prendre ce ton, ne sortira jamais de ma mémoire. J'en frissonnais moi-même. « Mais, bah, pensais-je, elle ferait comme ma première maîtresse. Si je prenais fait et cause pour elle, elle me montrerait du doigt comme un sot ridicule, et je paierais pour tous aux yeux du public. De l'homme qui doute à celui qui renie, il n'y a guère de distance. Tout philosophe est cousin d'un athée. Après avoir dit à Brigitte que je doutais de sa conduite passée, j'en doutais véritablement, et dès que j'en doutais, je n'y crus pas. J'en venais à me figurer que Brigitte me trompait. Elle, que je ne quittais pas une heure par jour. Je faisais quelquefois à dessein des absences assez longues, et je convenais avec moi-même que c'était pour l'éprouver. Mais au fond, ce n'était que pour me donner, comme à mon insu, sujet de douter et de railler. Alors, j'étais content lorsque je lui faisais remarquer que, bien loin d'être encore jaloux, je ne me souciais plus de ces folles craintes qui me traversaient autrefois l'esprit. Bien entendu que cela voulait dire que je ne l'estimais pas assez pour être jaloux. J'avais d'abord gardé pour moi-même les remarques que je faisais. Je trouvais bientôt du plaisir à les faire tout haut devant Brigitte. Sortions-nous pour une promenade? Cette robe est jolie, lui disais-je. Telle fille de mes amies en a, je crois, une pareille. Étions-nous à table? Allons, ma chère, mon ancienne maîtresse chantait sa chanson au dessert. Il convient que vous l'imitiez. Se mettait-elle au piano? Ah, de grâce, jouez-moi donc la valse qui était de mode l'hiver passé. Cela me rappelle le bon temps. Lecteur, cela dura 6 mois. Pendant 6 mois entiers, Brigitte, calomniée, exposée aux insultes du monde, eût essuyé de ma part tous les dédains et toutes les injures qu'un libertin colère et cruel peut prodiguer à la fille qu'il paye. Au sortir de ces scènes affreuses, où mon esprit s'épuisait en torture et déchirait mon propre cœur, tour à tour accusant et raillant, mais toujours avide de souffrir et de revenir au passé, au sortir de là, un amour étrange, une exaltation poussée jusqu'à l'excès, me faisait traiter ma maîtresse comme une idole, comme une divinité. Un quart d'heure après l'avoir insultée, j'étais à genoux. Dès que je ne l'accusais plus, je demandais pardon. Dès que je ne la raillais plus, je pleurais. Alors, un délire inouï, une fièvre de bonheur s'emparait de moi. Je me montrais navré de joie. Je perdais presque la raison par la violence de mes transports. Je ne savais que dire, que faire, qu'imaginer pour réparer le mal que j'avais fait. Je prenais Brigitte dans mes bras. Je lui faisais répéter 100 fois, 1000 fois, qu'elle m'aimait et qu'elle me pardonnait. Je parlais d'expier mes torts et de me brûler la cervelle si je recommençais à la maltraiter. Ces élans du cœur durèrent des nuits entières, pendant lesquelles je ne cessais de parler, de pleurer, de me rouler aux pieds de Brigitte, de m'enivrer d'un amour sans bornes, énervant, insensé. Puis, le matin venait, le jour paraissait. Je tombais sans force, je m'endormais, et je me réveillais le sourire sur les lèvres, me manquant de tout et ne croyant à rien. Durant ces nuits de volupté terrible, Brigitte ne paraissait pas se souvenir qu'il y eut en moi un autre homme que celui qu'elle avait devant les yeux. Lorsque je lui demandais pardon, elle haussait les épaules comme pour me dire « Ne sais-tu pas que je te pardonne ?» Elle se sentait gagnée de ma fièvre. Que de fois je l'ai vue, pâle de plaisir et d'amour, me dire qu'elle me voulait ainsi, que c'était sa vie que ses orages, que les souffrances qu'elle endurait lui étaient chères ainsi payées, qu'elle ne se plaindrait jamais tant qu'il resterait dans mon cœur une étincelle de notre amour, qu'elle savait qu'elle en mourrait, mais qu'elle espérait quand j'en mourrais moi-même. Enfin, tout lui était bon, lui était doux, venant de moi, les insultes comme les larmes, et que ses délices étaient son tombeau. Cependant, les jours s'écoulaient, et mon mal empirait sans cesse. Mes accès de méchanceté et d'ironie prenaient un caractère sombre et intraitable. J'avais au milieu de mes folies de véritables accès de fièvre, qui me frappaient comme des coups de foudre. Je me veillais, tremblant de tous mes membres et couvert d'une sueur froide. Un mouvement de surprise, une impression inattendue me faisait tressaillir jusqu'à effrayer ceux qui me voyaient. Brigitte, de son côté, quoiqu'elle ne se plaignît pas, portait sur le visage des marques d'une altération profonde. Quand je commençais à la maltraiter, elle sortait sans me dire et s'enfermait. Dieu merci, je n'ai jamais porté la main sur elle. Dans mes plus grands accès de violence, je serais plutôt mort que de la toucher. Un soir, la pluie fouettait les vitres. Nous étions seuls, les rideaux fermés. « Je me sens d'humeur joyeuse, » dis-je à Brigitte. Et cependant, ce temps horrible m'attriste malgré moi. Il ne faut pas nous laisser faire. Si vous êtes de mon avis, nous nous divertirons en dépit de l'orage. » Je me levai, j'allumai toutes les bougies qui se trouvaient dans les flambeaux. La chambre assez petite en fut tout à coup éclairée, comme d'une illumination. En même temps, un feu ardent, nous étions à l'hiver, y répandait une chaleur étouffante. « Allons, dis-je. » « Qu'allons-nous faire en attendant qu'il soit temps de souper ?» Je pensais qu'alors à Paris, c'était le temps du carnaval. Il me semblait voir passer devant moi les voitures de masques qui se croisent au boulevard. J'entendais la foule joyeuse se renvoyer à l'entrée des théâtres, mille propos étourdissants. Je voyais les danses lascives, les costumes bariolés, le vin et la folie. Toute ma jeunesse me fit bondir le cœur. « Déguisons-nous, » dis-je à Brigitte. « Ce sera pour nous seuls, qu'importe. Si nous n'avons pas de costume, nous avons de quoi nous en faire, et nous en passerons le temps plus agréablement. » Nous prîmes dans une armoire des robes, des châles, des manteaux, des écharpes, des fleurs artificielles. Brigitte, comme toujours, montrait une gaieté patiente. Nous nous travestîmes tous deux. Elle voulut me coiffer elle-même. Nous avions mis du rouge, et nous nous étions poudrés. Tout ce qu'il nous fallait pour cela s'était trouvé dans une vieille cassette, qui venait, je crois, de la tante. Enfin, au bout d'une heure, nous ne nous reconnaissions plus l'un l'autre. La soirée se passa à chanter, à imaginer mille folies. Vers 1 heure du matin, il fut temps de souper. Nous avions fouillé dans toutes les armoires. Il y en avait une près de moi qui était restée entr'ouverte. En m'asseyant pour me mettre à table, j'y aperçus sur un rayon le livre dont j'ai déjà parlé, où Brigitte écrivait souvent. « N'est-ce pas le recueil de vos pensées ?» demandai-je en étendant le bras et en le prenant. « Si ce n'est pas une indiscrétion, laissez-moi y jeter les yeux. » J'ouvris le livre. Quoique Brigitte fît un geste pour m'en empêcher, à la première page, je tombai sur ces mots. « Ceci est mon testament. » Tout était écrit d'une main tranquille. J'y trouvai d'abord un récit fidèle, sans amertume et sans colère, de tout ce que Brigitte avait souffert par moi depuis qu'elle était ma maîtresse. Elle annonçait une ferme détermination de tout supporter tant que je l'aimerais et de mourir quand je la quitterais. Ses dispositions étaient faites. Elle rendait compte jour par jour du sacrifice de sa vie. Ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait espéré, l'isolement affreux où elle se trouvait jusque dans mes bras, la barrière toujours croissante qui s'interposait entre nous, les cruautés dont je payais son amour et sa résignation. Tout cela était raconté sans une plainte. Elle prenait à tâche, au contraire, de me justifier. Enfin, elle arriva au détail de ses affaires personnelles et réglait ce qui regardait ses héritiers. C'était par le poison, disait-elle, qu'elle en finirait avec la vie. Elle mourait de sa propre volonté et défendait expressément que sa mémoire servit jamais de prétexte à quelque démarche contre moi. « Priez pour lui », telle était sa dernière parole. Je trouvai dans l'armoire, sur le même rayon, une petite boîte que j'avais déjà vue, pleine d'une poudre fine et bleuâtre, semblable à du sel. « Qu'est-ce que cela ?» demandai-je à Brigitte, en portant la boîte à mes lèvres. Elle poussa un cri terrible et se jeta sur moi. « Brigitte, lui dis-je, dites-moi adieu, j'emporte cette boîte. Vous m'oublierez et vous vivrez, si vous voulez m'épargner un meurtre. Je partirai cette nuit même, et ne vous demande point de pardon. Vous me l'accorderiez que Dieu n'en voudrait pas. Donnez-moi un dernier baiser. » Je me penchai sur elle, et la baisai au front. « Pas encore, » s'écria-t-elle avec angoisse. Je la repoussai sur le sofa, et m'élançai hors de la chambre. 3 heures après, j'étais prêt à partir, et les chevaux de poste étaient arrivés. La pluie tombait toujours. Je montai à tâtons dans la voiture. Au même instant, le postillon partit. Je sentis deux bras qui me serraient le corps et un sanglot qui se collait sur ma bouche. C'était Brigitte. Je fis tout au monde pour la décider à rester. Je criai qu'on arrêtât. Je lui dis tout ce que je puis imaginer pour lui persuader de descendre. J'allais même jusqu'à lui promettre que je reviendrai un jour à elle, lorsque le temps et les voyages aurait effacé le souvenir du mal que je lui avais fait. Je m'efforçais de lui prouver que ce qui avait été hier serait encore demain. Je lui répétais que je ne pouvais que la rendre malheureuse, que s'attacher à moi, c'était faire de moi un assassin. J'employai la prière, les serments, la menace même. Elle ne me répondit qu'un mot. Tu pars, emmène-moi. Quittons le pays, quittons le passé. Nous ne pouvons plus vivre ici. Allons ailleurs, où tu voudras. Allons mourir dans un coin de la terre. Il faut que nous soyons heureux, moi par toi, toi par moi. Je l'embrassai avec un tel transport que je crus sentir mon cœur se briser. Pars donc, criai-je au postillon. Nous nous jetâmes dans les bras l'un de l'autre, et les chevaux partirent au galop.